Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur le PCC pour ce numéro 312 pour les nouvelles du mois de décembre 2015. J'enregistre ce podcast avec 24 heures de retard. On est donc le 1er janvier 2016. J'en profite évidemment pour vous souhaiter une très bonne année, santé, joie, bonheur et fortune pour cette nouvelle année. Comme Philippe me l'a fait gentiment remarquer, c'est pas une journée de retard que j'ai cette année, cette fois, mais bien une année. Voilà, promis, Philippe, ça n'arrivera qu'une seule fois. Bon, alors, évidemment, je commence par remercier les sponsors officiels du PCC, donc que sont donc le Philippe de Suisse susnommé, Bernard de La Réunion, Frédéric Pernaud, voilà, qui est plus dans l'Est de la France, et il y a aussi Maximilien, Morand, Michel et Michael, voilà. Comme toujours, l'idée en tout cas de venir sponsor, c'est si vous trouvez de la valeur, si ça vous fait passer un bon moment de m'écouter une fois par mois sur le PCC, vous pouvez contribuer à mon projet professionnel sur la chaîne guitare, sur lachaîneguitare.com, et soit prendre un pass backstage, ou alors vous pouvez aller le faire via la page Patreon, patreon.com/lachaîneguitare, voilà. Alors je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler de course à pied. Effectivement. Voilà, faut que j'enlève mes gants, parce que sinon j'arrive pas à scroller sur ma petite note Evernote, pardon. Donc je vais vous parler de course à pied, je vais vous parler d'histoire de geek, je vais vous parler à la demande de Philippe, de Philou76, je vais décrire mon setup audio et vidéo que j'utilise sur la chaîne guitare, un petit point business sur la chaîne guitare qui termine en fanfare 2015. Et puis une petite chronique livre avec trois livres, deux livres que j'ai lus et un que je suis en train de terminer de lire. Alors là on est donc le 1er janvier. Vous savez que traditionnellement avec ma petite famille on se fait un petit voyage entre Noël et Jour de l'An. Donc là cette fois nous sommes restés en France et nous sommes allés dans le coin de Perros-Guirec, donc en Bretagne, en Côte d'Armor. Une région que je connaissais pas du tout, enfin en fait que je connaissais bien à une époque parce que j'ai fait beaucoup de bateaux de dériveurs et puis de cabotage, donc sur des petits voiliers, des quillards, excusez-moi, la mouche, genre Corsair et puis Armagnac dans le coin de la baie de Saint-Brieuc, les îles anglo-normandes, tout ça, mais je connaissais pas du tout après Saint-Brieuc en fait, hein, la côte. Et donc là on a passé 3 jours dans un gîte que Carole, ma chérie, a trouvé, c'est pas un gîte d'ailleurs, c'était une maison, à Perros-Guirec sur la plage de Trestraou, et c'était super agréable. On a eu un temps très correct, très clément, sauf une journée où on a eu un peu de flotte dans l'après-midi, mais ce qui m'a permis de courir 3 fois, j'ai couru 3 fois de suite le matin, parce qu'on était vraiment à 100 mètres de la plage. Et il y avait un sentier des douaniers qui partait juste à côté de la maison, enfin à quoi, à 400-500 mètres. Et là, on est entre mer et côte. Il y a la côte de granit qui est vraiment splendide. Et c'est un vrai bonheur de courir dans des endroits comme ça qui sont hyper beaux. En plus, je courais un peu freestyle, comme je dis, c'est-à-dire sans montre, sans GPS, sans iPod, juste pour le plaisir pur de la course à pied. Et Dieu sait si je kiffe à mort, hein, les programmes d'entraînement bien cadrés, etc., avec des choses très précises. Mais courir comme ça, juste au feeling, juste pour le plaisir de sentir son corps bouger à travers l'espace, d'avoir des bonnes sensations, enfin d'avoir des sensations tout court en fait, bonnes ou moins bonnes, puisque là j'ai encore ma tendinite là qui va un peu mieux, mais qui est là. C'est super agréable, voilà, on n'est pas là en train de dire ah bah tiens je suis à combien, non, on est juste concentré sur les sensations qu'on retire, et ça c'est très agréable, et finalement c'est ça le cœur de la course à pied, c'est trouver ses sensations et prendre du plaisir dans la course à pied. Et des fois, quand on est un petit peu trop obsédé du chrono, eh ben, on oublie un peu cette partie qui est bien importante. Et ça permet un peu de relativiser les choses et puis de profiter, de tirer en fait tous les bienfaits de la course à pied, sans en avoir un peu les effets négatifs, à savoir un peu culpabiliser parce qu'on se dit oh là là, je me traîne et compagnie. Là, je sais que avant d'avoir couru là trois fois de suite en novembre, j'avais quasiment pas couru, j'ai peut-être couru une fois. Décembre, j'ai couru une fois ou deux, à part ces trois derniers jours. Voilà, alors forcément, quand on reprend, on se traîne, quoi, c'est clair. Donc c'est encore plus important de se focusser sur le plaisir qu'on trouve à se bouger le derrière, plutôt que de se dire, oh là là, mais d'habitude, je suis à 5 minutes 30 du kilo sans forcer, quoi. Là, j'ai du mal à me traîner à 6 minutes du kilomètre, quoi. Voilà, peu importe. En tout cas, voilà, ma tendinite, ça continue, je dirais, de se résorber. Là, on a fait quand même pas mal de voitures, parce que c'est quand même un bon 500 km pour aller jusqu'à Perros-Guirec. Et voilà, ça c'est plutôt... Bon, j'avais mal un peu en arrivant, mais bon, comme toujours, quand on reste assis pendant 500 bornes, c'est pas très agréable. Et ça m'a fait moins mal comparativement... par exemple cet été quand on est allé en Corse, là on a fait beaucoup de voitures. Donc je pense la guérison, je trouve qu'elle est toujours trop lente, mais ça va quand même dans le bon sens. Voilà, donc on est en 2016. La question à 100 000 euros, est-ce que j'ai des objectifs pour la course? Pour l'instant non. J'ai pas de course inscrite au calendrier, ni marathon, ni moins. Voilà, j'ai envie d'avoir envie en fait, quoi. Et pour l'instant, je suis un peu focusé par guérir complètement de cette tendinite là, de mon enthésopathie, cette tendinite d'insertion au niveau de l'ischion. Voilà, et puis bon, peut-être le fait d'avoir réussi mon objectif de passer en dessous de 3h30 au marathon, je suis un peu moins motivé pour aller. Me faire mal là, y consacrer le temps nécessaire pour aller plus vite. Donc voilà, je me laisse porter et je vais surtout me focusser sur le plaisir, la sensation et retrouver le rythme bien, bien agréable de la course à pied. Donc voilà, pas d'objectif particulier. Voilà, il y a mon téléphone qui était passé en veille, il vient de se redéverrouiller. La partie geek. Alors, j'utilise assez souvent Snapchat et c'est marrant de voir un peu les conversations qu'on peut avoir avec amis et gens de la famille, quoi. C'est un format que j'apprécie, même si finalement, je trouve qu'on se retrouve à balancer pas mal de choses, qui sont pas pérennes, puisque évidemment, ça disparaît au bout de 24 heures. Mais ça n'empêche pas d'avoir des échanges qui sont intéressants. Alors, Instagram n'est toujours pas en multi-compte. Et merci à ceux qui m'ont signalé l'article mentionnant que le multi-compte à l'intérieur de l'application devrait pas tarder d'arriver sur Android. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur Android. Mais en tout cas, je guette fébrilement toutes les mises à jour d'Instagram. Et pour l'instant, je ne vois rien venir. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, je maintiens principalement le compte de la chaîne Guitare et celui de The Guitar Channel. Et ça fait un moment que j'ai pas posté de photos sur mon compte perso Pjournel sur Instagram. Et c'est sûr que je le ferais beaucoup plus si j'avais cette possibilité. Voilà, Mailbox, l'application Mailbox qui arrête son service, je pense, c'est quelque part au mois de février. Je pense que c'est au mois prochain. Voilà, c'est dommage parce que moi j'aimais bien cette application, mais visiblement il s'était fait racheter par je sais plus qui. Voilà, il n'y avait plus de développement. Et je pense que ce qu'ils avaient lancé comme fonctionnalité principale, le fait de se faire renvoyer les mails à la date qu'on veut, le lendemain, une semaine, un mois plus tard, ou etc., une autre date, beaucoup de clients l'avaient intégré, beaucoup de clients mail. Du coup, ils étaient un peu moins pertinents. Alors du coup, j'ai installé Outlook sur iOS, qui est une application très rapide, qui est très bien foutue, qui propose un peu le même genre de trucs. Je ne sais plus qui l'avait testé. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, très, très agréable à utiliser. C'est à peu près les mêmes fonctionnalités que Mailbox, sont un petit peu plus puissants, mais l'interface est à peu près aussi claire, quoi. Voilà, vous parlez de Google Plus qui continue de faire des mises à jour, mais toujours aussi poussive, donc il reste quand même pas mal de bugs, donc ça c'est assez merdique. Alors, je vais vous parler de setup audio et de vidéo sur la chaîne guitare, donc suite à la question de Philippe. Alors, en mobile, c'est-à-dire quand je fais des interviews backstage, dans les salons, enfin voilà, toutes les interviews que je fais en dehors de chez moi en fait. Mon setup est assez simple, ça tient dans une petite mallette, j'appelle ma mallette d'hôtesse de l'air, petite mallette à roulettes là qu'on traîne derrière soi, où il y a tous mes deux appareils photo, mon zoom H2, mon trépied, mes mille et un petits câbles, et voilà, en général ça se résume à ça. Et donc j'utilise un Lumix GH1 pour la vidéo. Donc j'utilise, il est vissé sur un trépied, un monopode en fait Manfrotto, que j'avais acheté pour le quand je faisais de la photo avec le Nikon D200 et puis le Bazooka, là, le 70, le 8200 qui ouvre à 2.8. Et donc j'avais acheté ce monopode et il y a un petit accessoire très pratique de Manfrotto qui est une sorte de mini trépied. Qui se démonte et qui se visse à l'intérieur du monopode, qui permet d'avoir une bonne stabilité sans avoir un gros encombrement, quoi. Donc je mets le Lumix GH2 là-dessus. Je renverse évidemment l'écran pour pouvoir garder un coup d'œil sur l'image, sur le chrono, etc. Et c'est ça qui est en général 1m50 de moi et de la personne que je suis en train d'interviewer pour la vidéo. Et je fais la prise de son avec le fidèle Zoom H2 avec lequel je suis en train d'enregistrer ce podcast, qui est increvable, quoi. Hein. Ça fait quand même... quand est-ce que je l'ai acheté, d'ailleurs, ce truc ? On était encore au Canada, donc c'était, je sais pas, 2006-2007, un truc comme ça. Peut-être même avant. Donc, voilà. En studio, c'est les mêmes configurations, mais je rajoute un deuxième appareil photo, un deuxième Lumix pour avoir un deuxième angle. Donc c'est pour tous les, ce qui est masterclass, choses comme ça, ce qui me permet d'avoir un plan large et puis un plan resserré sur le guitariste. Donc ça pour la vidéo. J'ai aussi deux lumières Big Light qui permettent d'avoir une très belle lumière avec une source large, sans ombre portée, ce qui fait que ça fonctionne très bien. Pour le son, jusqu'à il y a très peu de temps, j'utilisais une session GarageBand avec une interface audio Motu Ultralight MK2, où je mettais les entrées audio nécessaires. Donc en général, il y avait deux micros, un micro pour l'invité, un micro pour moi, et puis une sortie stéréo pour la guitare. L'inconvénient de ça, c'est que c'est obligé d'avoir sur l'ordinateur un GarageBand qui tourne, avec les problèmes de setup qu'il peut y avoir, les risques que ça bug et compagnie, enfin, qui sont assez faibles. Enfin, c'était un truc software qui tourne en plus. Donc j'ai acheté tout récemment un Tascam DR60D, qui est un petit enregistreur numérique, qui est très compact, et qui enregistre 4 pistes en simultané, ce qui permet d'avoir la même chose, mais sous forme hardware, et avec une très bonne qualité de son. Il y a 4 pré-amplis, donc ça fonctionne très bien, et donc je récupère après ensuite ces 3 ou 4 pistes audio sur Final Cut pour faire le montage vidéo. Donc le montage, comme je viens de dire, je le fais sur Final Cut Pro depuis, ça fait 3-4 mois maintenant, je pense que j'avais commencé vers le mois de septembre, août-septembre, et ça me fait gagner beaucoup de temps. Hein. C'est un petit peu plus compliqué à utiliser, mais pas tant que ça. Quand on connaît iMovie, finalement, on passe assez facilement à Final Cut. J'ai acheté un bouquin là, pour avoir un petit peu les fonctions avancées. Moi, ça me fait gagner du temps, surtout pour la partie synchronisation entre le son et la vidéo, que je faisais manuellement avec iMovie. Donc là, je le fais, c'est automatique dans Final Cut, donc ça, c'est bien pratique. Et puis pour le montage multicam, là, c'est aussi très simple à faire dans Final Cut. Une fois qu'on a pigé comment ça fonctionnait, c'est très facile à faire et on a un bon résultat de cette manière-là. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Les difficultés principales, en fait, il n'y en a pas tant que ça, hein, parce que c'est quand même un matos relativement simple. La principale difficulté, c'est que je fais tout seul, hein, je travaille en solo. Donc, quand je fais une interview ou une masterclass ou j'enregistre des chroniques, que ça soit à la maison ou à l'extérieur, eh bien, voilà, il faut tout gérer. Donc, à la fois la partie technique et puis évidemment le contenu de l'interview. Donc, voilà, maintenant, ça fait plusieurs centaines que je fais de cette manière-là. Donc, je commence à bien maîtriser le matériel. Donc, ça j'ai à peu près jamais eu des pépins, hein. J'ai jamais perdu d'interview ou eu des gros soucis, quoi. Donc, maintenant, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien avec, je pense, un niveau de qualité qui est assez correct. Et là, il va falloir que je m'arrête parce que j'ai plus de batterie sur le Zoom H2. Alors, je vais faire une petite pause et reprendre après. Alors, voilà, de retour donc sur le. Cette fois avec l'enregistrement iPhone, avec le casque donc de l'iPhone 6S pour continuer de faire cet enregistrement. Je me demande d'ailleurs si je ne devrais pas enregistrer systématiquement le PC cette manière-là. Ça me ferait quelque chose de moins à trimballer quand je fais ces petits enregistrements. Donc voilà, j'ai terminé de parler du setup. Donc régulièrement je me pose la question, est-ce qu'il faudrait que je passe sur une config Reflex et compagnie. Bon, en fait, mon côté geek, fan de photos, etc., me ferait dire oui, ça serait une bonne idée de changer, de prendre un appareil photo plus performant. Mais en fait, la vérité, c'est que pour poster des vidéos sur YouTube et même pour faire de la vidéo HD, mes deux Lumix sont largement suffisants. Donc il n'y aura pas gros avantage à passer sur une config plus musclée en termes de vidéo, en tout cas. Ça coûterait plus cher, ça ferait des plus gros fichiers, etc. Enfin, ça serait plus encombrant. Voilà, donc je pense que je vais rester sur cette configuration pendant un moment, qui fonctionne très bien et que j'ai pu upgrader assez régulièrement depuis quelques années. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à tes questions, Philippe. Idéalement, il faudrait que je pense à mettre quelques photos pour illustrer un peu le setup. Il y en a quelques-unes qui traînent sur l'Instagram de la chaîne guitare, hein, donc instagram.com/la chaîne guitare. Si tu veux voir un peu des photos détaillées du setup, il y en a quelques-unes. Alors la chaîne guitare justement, l'année 2015 se termine vraiment en fanfare, hein, puisque on est à 245 backstagers payants, donc ça a été un très beau mois de décembre pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai fait une promotion moins 30% jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à hier. Sur les passes backstage 6 mois et 1 an, donc ça en a décidé plus d'un à faire le saut. Donc il y a eu des nouveaux qui sont passés backstage, des backstagers existants qui ont renouvelé leur passe, qui ont profité de la promotion. Et donc ça a permis de faire une belle progression. Au bilan total sur l'année, la chaîne guitare est passée de 134 clients payants à 245. Donc ce qui fait une augmentation de plus 83%. Donc je suis hyper fier comme un bar tabac de ce résultat. Je me rappelle encore très bien de l'époque où je mettais à jour consciencieusement mon fichier Excel pour suivre un peu les backstagers, et je me disais, ah là là, est-ce qu'un jour je vais arriver à 100? Et puis voilà, maintenant je suis en train de largement dépasser les 200 clients payants, donc c'est évidemment très encourageant parce que je me suis quand même beaucoup défoncé sur 2015 pour faire avancer ça, et de voir que les clients répondent présents, et ben ça fait toujours plaisir. Il y a eu aussi le Pass Backstage Pro, donc j'ai lancé donc à destination des professionnels, donc luthiers, magasins de musique, marques, fabricants de matériel divers, musiciens professionnels, etc. Donc où je suis arrivé à faire rentrer 17 clients pro. Qui payent eux entre 200 et 500 euros par an, donc avec des prestations à plusieurs vitesses. Et je suis aussi très fier là parce que j'ai eu mon premier client américain qui est un fabricant de pédales qui s'appelle BeatBuddy, qui fabrique une pédale assez astucieuse, qui est une boîte à rythme intégrée dans une pédale, et qui est vraiment très bien. Ils m'en ont envoyé une il y a quelques temps, que j'ai récupéré, que là je suis en train de faire tourner auprès des backstagers. Et donc ils viennent de prendre un pass backstage pro, et donc on va pouvoir se faire des choses ensemble, et puis en plus je les rencontre donc le mois prochain, enfin non c'est pas le mois prochain d'ailleurs, c'est ce mois-ci, à Los Angeles, puisque je vais être au NAMM, qui est un peu la grand-messe de l'industrie musicale qui se tient aux États-Unis une fois par an. Donc ça, voilà, très content de ça. Il y a encore énormément de choses qui restent à faire pour continuer d'accélérer la croissance, aller encore plus loin, pouvoir plus pénétrer le marché américain. Donc parce que sur les 245 backstagers, c'est vraiment, là j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est environ 5% de gens qui sont anglophones, donc c'est très très peu par rapport évidemment au bassin potentiel que ça représente. Les objectifs principaux, c'est de continuer de développer la visibilité de la chaîne guitare, être présent sur plus de festivals, plus de concerts, plus de salons. Je vais aussi mettre pas mal d'énergie sur la partie SEO, sur lequel je ne faisais pas d'action délibérée, enfin en tout cas pas suffisamment. Et j'ai discuté de ça avec Pierre de Sola, que je salue au passage, je ne sais pas s'il écoute le PCC, et qui m'a vraiment... on a une bonne discussion, enfin, à propos de pas mal de choses d'ailleurs, et en particulier sur cette partie-là, et voilà, je me suis rendu compte, enfin je le savais confusément, enfin plutôt de manière intuitive, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ne faisais pas, en tout cas suffisamment, pour que mes articles soient encore mieux indexés, plus facilement trouvables, etc. Parce que c'est vrai que l'essentiel du trafic que je récupère sur la chaîne guitare, il vient de Google, quoi. Donc d'où l'importance d'être très très bien référencé. Donc voilà, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Yoast, Yoast, qui est gratuit et qui guide en fait très bien... ce qui vous dit un peu exactement ce qu'il faut faire article par article pour que votre article soit le mieux indexé possible. Donc je vais pas mal travailler là-dessus. J'ai lancé tout récemment un groupe fermé Facebook en complément de la communauté privée Google+. J'avais pas voulu le faire à l'époque parce que je voulais pas me lier à Facebook, mais en fait c'était une erreur d'appréciation de ma part, parce que voilà, c'est un fact of life que il y a beaucoup de gens sur Facebook, et donc il faut aller là où les gens sont. Donc autant tout ce qui est forum dédié, etc., c'est plus ou moins mort, et ça c'est beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé m'ont confirmé ça. La conversation s'est déplacée sur les blogs beaucoup moins, parce que moi j'ai très très peu, enfin relativement peu de commentaires sur l'article, mais par contre sur les réseaux sociaux. D'où l'intérêt des communautés privées sur Google+, ou un groupe fermé sur Facebook, et il y a beaucoup d'activités là, et je compte aussi là-dessus pour que ça soit un vecteur pour aller animer encore des gens que j'avais pas pu faire venir sur Google+. Parce que ils étaient anti-Google, ou parce que ça les tentait pas d'aller gérer un nouvel outil en plus, etc. quoi. Donc ça c'est vraiment une bonne chose de fait. Voilà, je suis en train de regarder mes petites notes. Pour démarrer 2016, il va y avoir deux événements physiques aussi sur la chaîne guitare, avec en particulier le 6 février, donc une masterclass sur la guitare fusion avec Renaud Louis Servet, qui est un musicien français de grand talent que j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois, qui vient de sortir un album excellent qui s'appelle Epic Circus. Et donc c'est une masterclass en dur, cette fois, pour de vrai, pas en ligne, qui va se passer à l'atelier 58 à Montreuil, là juste à côté de chez moi, là c'est tout proche sur la ligne 1. Alors c'est entrée payante, c'est 30€, et donc c'est une introduction à la guitare fusion avec des démos, des backing tracks, et puis l'interaction avec le musicien. Donc ça c'est entrée payante le 6 février prochain. Et il y aura donc le 18 février, cette fois une soirée matos. C'est quelque chose que je relance, que j'avais eu l'occasion de faire plusieurs fois, de co-organiser en 2013 et 14, je crois bien, c'était ce qu'on avait appelé l'apéro riff, et que je relance sous une formule un petit peu différente, parce que là, c'est pas dans un bar, c'est vraiment dans un studio de répète, c'est encore à l'atelier 58, au même endroit que là où j'organise la masterclass avec Renaud Louis Servet. Là, c'est entrée libre, donc gratuite pour tout le monde. L'inscription est juste obligatoire pour voir combien on va avoir de monde qui va venir. Là, il y a mon Zoom H2 qui vient de tomber dans l'herbe mouillée, qui vient de tomber de la poche. Et l'idée de la soirée matos, c'est de venir tester du matos de qualité, voilà, avec uniquement une sélection d'exposants. Donc, il va y avoir un luthier, Maurice Dupont, qui va venir avec des guitares. Il va y avoir les amplis FX-Amp, voilà, qui sont fabriqués en Grèce par un Français, puis importés en France. Donc, c'est l'importateur qui vient présenter ses amplis. Il y a les pédales Anasound qui sont détenteurs d'un Pass Backstage Pro qui viennent présenter leurs pédales. Et enfin, l'assureur Verspiren qui propose un produit d'assurance spécifique dédié aux guitaristes qui veulent assurer leur instrument. Donc ça, je suis assez content de ça parce que c'est une occasion de créer du lien, de se rencontrer entre passionnés de la guitare et évidemment de recruter du backstager. Donc voilà, ça c'est les deux prochains événements en dur de la chaîne guitare. Et évidemment, donc le NAMM Show, où je vais être du 20 au 26 janvier, donc en Californie. Donc ça, c'est plutôt le bagne. Imaginez, aller en Californie en plein mois de janvier. Donc ça va être l'occasion de ramener pas mal d'interviews, d'établir des contacts business. Je vais faire une visite d'usine aussi de guitare, des guitares Taylor. Je vais aller voir un salon de la guitare vintage, enfin bref, il y a pas mal de choses au programme, je suis assez excité de cette deuxième édition. Voilà, on arrive à la fin de ce PCC, je voulais vous parler de livres aussi. Alors il y a un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Le Parfum de Patrick Suskind, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas voilà, et qui est vraiment intéressant, qui est évidemment, comme son nom l'indique, basé sur la partie olfactive de nos sens. Et c'est un peu barré, un peu weird, mais c'est vraiment pas mal. Et sinon, j'ai terminé deux livres récemment. Il y a Guitar Lesson de Bob Taylor que je viens de terminer. Donc Bob Taylor, c'est celui qui a créé les guitares Taylor dont je vous parlais un peu plus tôt là. Donc je vais aller visiter l'usine à San Diego, et qui a écrit un bouquin pour parler de son aventure d'entrepreneur pour créer cette marque de guitare, etc. Donc c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment il avait créé la société, les aléas, toutes les aventures qu'il a pu subir. Parce qu'on a souvent l'impression, une fois que la marque est établie, que le parcours a été très linéaire, quoi, voilà, c'est sans trop y réfléchir, on se dit bon bah voilà, ils ont commencé petit, puis ils ont ajouté des gens, et puis voilà. Et en fait, pas du tout, c'est beaucoup plus roller coaster que ça. Et le bouquin, j'ai trouvé très intéressant, à la fois pour comprendre un peu mieux l'industrie de la guitare et une aventure d'entrepreneur. Voilà, il se trouve que ça parle de guitare, mais ça serait de la fabrication d'autres choses, ça serait à peu près pareil. Et évidemment, bon, comme je compte bien pouvoir l'interviewer pendant le NAMM, ça c'est encore mon Zoom H2 qui vient de tomber de la poche, décidément, voilà, je veux vraiment le casser. Ça m'a permis de préparer l'interview. Et voilà, Bob Taylor, donc il est à la tête d'une entreprise où ils ont, je crois, 700 employés, quelque chose comme ça, donc c'est énorme, hein. Et ils fabriquent quelque chose comme 500 guitares par jour, quoi. Donc c'est vraiment, c'est l'usine dans le bon sens du terme, quoi, dans le sens, enfin, en tout cas au niveau volume. Et ils ont amené beaucoup de choses aussi au niveau qualité des guitares, une nouvelle technique pour accrocher le manche à la caisse de la guitare, etc. Et j'ai lu aussi avant le Bob Taylor, donc un livre de Pierre Assouline qui s'appelle Lutetia, qui est un bouquin assez étonnant, qui parle d'un quelqu'un du responsable de la sécurité de l'hôtel Lutetia pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qui donne un regard assez étonnant et voilà, très très intéressant. Voilà voilà. Je crois que cette fois on arrive vraiment au terme du PCC. Je vous fais des grosses bises, continuez à bien écouter des podcasteurs indépendants et à dire que vous les aimez, surtout, c'est important. Et puis, on se reparle très bientôt. Ciao, bye bye.